Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h38 de retour dans les grandes gueules du sport sur RMC avec Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Jérôme Pinault. Ce matin, toujours au cœur de notre dossier spécial dopage, nos deux invités, Olivier Rabin, directeur sciences et médecine de l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, et puis Jean-Claude Alvarez, directeur du service toxicologie de l'hôpital APHP. Raymond Poincaré de Garches, le professeur qui innocente les sportifs, sujet à une contamination. Vous vous êtes notamment occupé, professeur d'Igaziantec, ou encore Simona Alep. Justement, nous allons parler de cette nouvelle défense des sportifs. Je ne suis pas dopé, je suis contaminé. Nous avons évoqué le cassineur.
On n'a pas complètement évoqué parce qu'on n'a pas eu le fin mot de l'histoire. Est-ce que pour vous, professeur Rabin, Sinner est exempté de cas de dopage? Pour vous, il n'a jamais été dopé volontairement, parce que ça, on ne le sait pas. Et les gens se posent des questions.
Dans ces cas-là, tu ne dis pas dopé, en fait. C'est contaminé, c'est mot. Alors, est-ce qu'il a donc été contaminé? C'est un autre mot, en fait. Dopé, c'est tu viens chercher une substance pour améliorer tes performances.
C'est toi qui vas la chercher.
Contaminé, t'as été contaminé. Quand toi tu manges des œufs pas frais, t'as la salmonelle et t'es contaminé.
Et contaminé veut dire aucun effet.
D'accord.
Ça, c'est important.
Donc, professeur Rabin,
est-ce que vous le mettez
contaminé ou dopé?
Exactement.
Non, mais pour moi, l'angle est un peu différent. C'est-à-dire que sur la base des analyses qui ont été menées, cet athlète a été exposé à une substance interdite. C'est un fait avéré. Mais... ensuite, la révision du cas, que ce soit sous un angle scientifique médical, ce qui relève de ma responsabilité à l'Agence mondiale antidopage, et ensuite sous un angle purement juridique, est arrivé à la conclusion que l'athlète devait être sanctionné sous les règles du Code mondial antidopage, qui a été le cas, mais maintenant la sanction a été ajustée au regard des informations scientifiques et médicales qui étaient disponibles et qui ont eu tendance à accréditer le fait qu'il ait été exposé à cette substance, au clostébol de façon claire, par une action de son entourage.
Oui, donc, mais en fait, vous dites, vous reconnaissez qu'il a été exposé, et vous reconnaissez, ou en tout cas la sanction, c'est qu'il doit être maître, finalement, de tout ce qu'il a autour de lui.
De tout ce qui rentre dans son corps.
En tout cas, il doit être responsable de son staff aussi. C'est, dans la sanction, c'est ça que vous sanctionnez, plus que le dosage qui est micro-dosé, en fait.
Non, mais écoutez, alors, sur les dosages, on pourrait beaucoup discuter. On a quand même des substances aujourd'hui qu'on est effectivement capable d'analyser à des picogrammes par millilitre d'urine, qui sont des métabolites de stéroïdes anabolisants pour lesquels vous n'avez aucune raison d'être exposé dans la vie quotidienne. Donc faire le procès des micro-doses ou des micro-concentrations que l'on trouve dans les urines des athlètes est un faux procès. Tout dépend de la substance que l'on recherche et ce que cette substance veut dire. Si vous trouvez quelques picogrammes de benzoylgonine, qui est le métabolite principal de la cocaïne, vous ne pouvez pas forcément l'interpréter. Quand vous arrivez à des picogrammes d'une substance qui est par définition une substance dopante qui ne peut être utilisée que dans un cas de dopage, vous n'avez bien évidemment pas la même
interprétation. Dans le cas d'Alberto Contador, il y a quelques années, c'était là aussi une contamination au dopage, on ne sait pas, mais on avait trouvé des picots. Enfin, là aussi, c'était vraiment des doses infimes qu'on avait retrouvées dans les urines du grimpeur espagnol. Il avait pourtant été déchu de son titre du vainqueur du Tour de France.
Et là encore, je reviens, je connais très bien le cas Contador, puisque c'est moi qui ai fait toutes les analyses scientifiques, médicales et les calculs. Et il est très clair qu'entre l'explication qui a été donnée par l'athlète et le contexte de ces explications et les concentrations urinaires de clenbutérol qui avaient été trouvées, il y avait une déconnexion entre les explications.
Une non-cohérence, quoi.
Et ce qu'on trouvait. Et nous, c'est ce que l'on regarde. Il faut être très, très franc. L'AMA, j'aimerais quand même tordre un peu le cou à un tabou ou une perception. Le rôle de l'AMA n'est pas de façon obsessionnelle de sanctionner des athlètes. C'est absolument pas l'esprit dans lequel on travaille. L'esprit dans lequel on travaille, c'est, en ce qui me concerne, des éléments factuels. Je veux les faits, je révise les faits, comme je vous dis, quasiment tout le temps de façon complètement anonyme, c'est-à-dire qu'on me donne des éléments, notre département juridique me donne des éléments en me disant, écoute, dis-nous si d'après toi c'est une utilisation avérée d'une substance ou ça peut être une contamination, ça peut être autre chose. On a quand même des moyens aujourd'hui à l'Agence mondiale antidopage de travailler avec l'industrie pharmaceutique et de pouvoir aller chercher des informations qui ne sont jamais publiées, qui sont restées dans les tiroirs de l'industrie pharmaceutique et qui nous permettent parfois aussi de faire des calculs d'excrétion sur la base d'informations qui ne sont pas forcément publiées. Et là, c'est vrai qu'on a un avantage, mais un avantage qui est mis au service aussi de l'explication qui est cohérente ou non cohérente de la part d'un athlète.
Alors, je vois que tout le monde veut réagir. Jérôme Pinault et ensuite Jean-Claude Alvarez.
Moi, j'ai juste un problème avec vos derniers propos, Monsieur Rabin, c'est cette explication-là et cette prise de parole-là, Monsieur Rabin, vous étiez certainement déjà au sein de l'AMA dans les années 2000, et c'était déjà les mêmes explications lorsque Lance Armstrong dominait le peloton. On nous expliquait que on avait les moyens, qu'on travaillait avec les laboratoires pharmaceutiques, qu'on pouvait tout voir, qu'on pouvait aller plus loin, que s'il y avait de la triche, on le saurait, puisque nous sommes puissants, nous avons les moyens de trouver. Et au final, on s'est tous fait enfler sur le coup, et nous les coureurs, et vous les spectateurs. Et donc, est-ce que vous comprenez que ces choses-là, ça ne passe pas auprès du grand public, et encore moins auprès de certains sportifs qui se font ultra-dominer? Est-ce que vous le comprenez ça? Moi, ce que je regrette, attendez, je finis juste. Oui, moi, ce que je regrette aujourd'hui, c'est que vous êtes trop silencieux. Il faut
pas
plus
communiquer. Dans les grandes gueules du sport.
Voilà, mais jusque-là, c'est trop parce que cette sauce-là, en tout cas nous dans le cyclisme, on l'a déjà entendue.
Lance Armstrong, quand j'ai rejoint l'Agence mondiale antidopage en octobre 2002, c'est un dossier qui m'attendait sur le bureau à l'agence.
J'ai commencé ma carrière professionnelle en 2002 aussi.
D'accord. Alors, écoutez...
Vous devez avoir moins de dossiers sur moi que sur lui, je pense.
Je ne sais pas. Ouais,
probablement.
Je
ne
pas quand même.
Allez-y, Olivier Rabat.
Non, si vous voulez, ce qui était clair, c'est qu'à l'époque, en 2002, le Code mondial antidopage n'existait pas. On était en train de l'écrire. Et lorsque il était évident, on avait des éléments, et ça a été révélé par Damien Rossio dans l'équipe en août 2005, d'ailleurs de façon tout à fait évidente, il y avait des éléments déjà à l'époque qui indiquaient que Lance Armstrong s'était dopé, notamment à l'EPO. Et ce sont des éléments qu'on a partagés avec l'UCI, l'Union Cycliste Internationale à l'époque, en disant, écoutez, c'est plus qu'évident, on a des preuves, le Code mondial antidopage n'est pas encore en place, à vous d'agir, à vous de sanctionner l'athlète. Rien ne s'est passé.
Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui, Monsieur Rabin ?
Alors, aujourd'hui, il y a des dates, si vous voulez, quand même, de limite dans ce que l'on peut faire. Il y a 10 ans. 10 ans nous sont donnés pour révéler des cas, remonter des informations. On l'a vu, il y a malheureusement parfois des cas où ça va au-delà. Regardez l'affaire Puerto en Espagne, qui a eu en 2006. C'est quelque chose pour lequel, malheureusement, on n'a pas eu la collaboration qu'on espérait des autorités impliquées du côté espagnol et qui ne nous ont jamais permis de révéler ces cas publiquement et de les sanctionner comme ça aurait dû être le cas à l'époque sous le Code mondial antidopage. Maintenant que le Code mondial antidopage est en place, je peux vous assurer, et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai rejoint l'agence il y a maintenant plus de 20 ans, c'est l'assurance que, là encore, les meilleurs éléments puissent être pris en compte en faveur ou en défaveur de l'athlète. Il y a des athlètes sur lesquels, quand vous dites on ne fait pas appel, il y a des éléments où effectivement on arrive à la conclusion que ça peut être de la contamination, j'en ai vu récemment, à nouveau, et dans ces cas-là, l'AMA décide de ne pas faire appel. Mm-hmm. Et ces cas-là existent, et c'est évident, puisque les contaminations peuvent exister, il est logique qu'elles soient prises en compte par le système.
Professeur Alvarez, ma question c'est, est-ce que vous jouez contre l'AMA et est-ce que vous faites du bien la lutte anti-dopage, sachant que ces cas de contamination, si on comprend bien tout le monde, c'est pas vraiment du dopage. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, que les choses soient claires, ça a été dit tout à l'heure. Un contaminé, c'est pas un dopé. Que les choses soient bien claires.
On a l'impression que personne ne se dope, il n'y a que des contaminés. Et que finalement, le monde sportif est victime, en quelque sorte, de l'antidopage.
Il y a plein de dopés. Il faut attraper les dopés. C'est les vrais dopés, il faut les attraper. Voilà, c'est très clair. Je ne suis pas pour le dopage. Mais à partir du moment où on prouve scientifiquement, Monsieur Rabin tout à l'heure parlait de science, oui, c'est scientifique, on prouve scientifiquement que c'est de la contamination, quand par exemple dans des affaires, IGA par exemple, je fais racheter une boîte neuve à la pharmacie, je l'ouvre pas, je l'envoie au laboratoire, ils analysent, ils trouvent la même contamination que moi. Elle a rien dans les cheveux, c'est de la contamination.
Ce oui, donc pas là vous communiquez sur ce genre de cas, mais on vous sollicite aussi. Et je suppose que quand vous faites des analyses, rendez compte qu'il y en a qui ne sont pas contaminés.
Mais bien sûr, je travaille à charge.
Et qu'est-ce que vous en faites de ces non-contaminés?
Et oui, qu'est-ce que vous en faites?
Alors,
c'est non, qui ne sont pas contaminés.
Voilà, qui sont de...
Comment je travaille? Un sportif vient me voir, il me dit j'ai été attrapé, je suis positif, je ne suis pas d'accord, je conteste. La première chose que je vais faire, c'est une analyse de cheveux. Je regarde ce qu'il y a dans ses cheveux. Si j'ai des tonnes de produits dans ses cheveux, stop, je m'arrête là. Oui. Je donne les résultats à l'avocat et je lui dis, écoutez, pour moi, je suis désolé, ça m'est arrivé, hein, ça m'arrive régulièrement. Je dis,
vous pouvez rien faire.
Non, bah, là, je m'arrête là, c'est du dopage.
Est-ce qu'aujourd'hui,
avec... dans ce cas-là, il faut le sanctionner, lui, lourdement.
Est-ce qu'aujourd'hui, avec vos analyses, vos méthodes, professeur Alvarez, vous arriveriez à innocenter un Lance Armstrong ou un Ben Johnson?
Bah, là, c'est plus compliqué parce que c'est des molécules qui ne se fixent pas dans les cheveux. Je veux dire, il y a des limites aux cheveux. Bien entendu qu'il y a des limites. Je veux dire, quand on prend de l'EPO, par exemple, on ne le retrouve pas dans les cheveux. L'EPO, c'est l'idéal.
Le dopage sanguin, c'est quand même aujourd'hui, ça a été pendant des années.
Mais c'est là où il faut s'acharner. C'est ça qu'il faut rechercher. Oui, c'est là, les dopés. Ils utilisent ça. Mais... Je veux dire, quand on a de l'ostarine, la trimétazidine, tout ça, et qu'on prouve qu'on retrouve le produit dans le supplément qu'ils ont utilisé, je veux dire, moi, Amadou Fall, j'ai racheté le même. Je l'ai acheté moi, sur Internet. Je l'ai donné à quelqu'un, un volontaire. Ce volontaire, c'était mon fils. Je peux le dire maintenant, c'est publié dans la littérature. Je l'ai donné à mon fils. Je retrouve exactement la même concentration que Mohamed Oufal chez mon fils dans ses urines 8 heures après l'absorption du produit. C'est très clair, on a fait le tour. J'en ai pas dans les cheveux, j'en ai pas dans les poils. Ça prouve bien qu'il a été contaminé une fois et ça ne lui a fait aucun effet. Ce n'est pas du dopage, c'est de la contamination. Faut s'arrêter là. Il prend 9 mois. Pourquoi ? Je comprends pas, moi. Je veux dire, quand on dit qu'on s'acharne pas contre les sportifs, oui, on s'acharne contre les contaminés. Il faut s'acharner contre les dopés.
Alors, j'admire la foi du professeur Alvarez dans les analyses capillaires. J'ai un peu plus de réserve. Autant, quand vous l'avez dit, quand on trouve de fortes concentrations, oui, on peut avoir un certain nombre d'informations très utiles. Parfois, ne rien trouver ne veut pas dire du tout, et vous le savez tout aussi bien que moi, qu'il n'y a rien eu, que rien ne s'est produit. Donc, c'est là où il faut quand même raison garder et se dire, ok, les analyses urinaires ne sont pas parfaites, les analyses sanguines non plus, elles apportent chacune d'entre elles des informations qui peuvent être utiles dans l'explication des cas. Les analyses capillaires, de même, elles peuvent apporter des informations utiles, mais pas toujours. Et c'est là, et je reviens à ce que je disais précédemment, il faut prendre en compte tous ces éléments scientifiques avec le degré de certitude que l'on peut avoir ou parfois d'incertitude autour de ces éléments scientifiques et aussi les éléments contextuels. Dans un certain nombre de cas, et vous avez mentionné des noms, je ne peux pas rentrer dans les détails puisque ce sont des dossiers qui sont actifs actuellement, nous avons des éléments contextuels, d'autres calculs qui permettent de mettre en doute l'explication des athlètes. Et dans ces cas-là, notre rôle, et c'est notre rôle d'exprimer ces doutes et de voir si juridiquement des éléments peuvent être apportés afin de résoudre au mieux les cas. Ça n'est pas toujours à charge de l'athlète, c'est parfois à décharge. Et je pense qu'il faut essayer de reconnaître l'objectivité du processus et l'objectivité que tout un chacun se doit de mettre au service des athlètes. Après tout, on travaille au service des athlètes et notamment des athlètes propres. Il ne faut pas l'oublier.
Donc ça dépend du sportif. Parce que je reviens sur le cas Sinner, que je sache, aucune analyse capillaire. Donc on le croit sur parole. Il a 2 positifs au Clostebol. Alors c'est vrai que ça passe par voie transcutanée, aucun problème. Mais quelle est la preuve ? Quelle preuve il a amené que c'était bien de la contamination et pas du dopage? Comment vous savez qu'il n'a pas pris plusieurs doses de Clostebol, ce cher Sinner? Comment vous le savez? Il vous l'a dit et vous l'avez cru. Alors, il y a certains, vous les croyez, et d'autres, vous les croyez pas. Parce qu'il n'y a pas eu d'analyse capillaire. Hein, je suis bien placé pour le savoir. Donc,
Non,
il n'y en a pas eu. Bah, si on avait fait des cheveux, on aurait montré qu'il en avait probablement pas, si c'était de la contamination, ou qu'il en avait beaucoup, si c'était du dopage. Donc là, vous l'avez juste cru sur parole. Je trouve ça étonnant.
D'abord, on juge la cohérence des éléments qui sont à notre disposition. Si nécessaire, on peut parfois demander des analyses complémentaires. Vous savez tout aussi bien que moi, et ça c'est une recommandation du consensus de la Société donc internationale des analyses capillaires, que les analyses capillaires, au-delà de 3 mois, peuvent poser un problème de fiabilité. On a des limites quand même à l'analyse capillaire que l'on se doit de prendre en compte.
On connaît très bien les limites au bout de 3 mois. On les connaît.
Et vous avez pour certaines substances
aussi. Il y a de la diffusion, attendez, laissez-moi finir, il y a la diffusion, oui. Mais on maîtrise tout à fait, même au bout de 3 mois. Mais une petite parenthèse, Simona Halep, je l'ai prélevé 1 mois après, hein. Donc il n'y avait pas de problème. Pourquoi est-ce qu'on a contesté le résultat?
Mais Olivier Rabat, peut-être répondre là-dessus, sur la question de Sinner. Est-ce que parfois dans les sportifs, et ça peut arriver, avec leurs avocats, on les croit sur parole, vous voyez ce que je veux dire?
Non, ça n'est pas sur parole, on ne peut pas dire sur parole.
C'est pour ça que c'est important, la précision.
Il y a des éléments sur les faits qui sont à disposition. Et à un moment, il peut y avoir ou des demandes complémentaires d'analyse, ça arrive. Vous avez évoqué, professeur Alvarez, lorsqu'il y a la nécessité de tester des compléments alimentaires, ça arrive même très régulièrement dans un certain nombre de cas, ou des médicaments. Il est arrivé qu'effectivement, on retrouve des contaminations tout à fait objectives dans des médicaments et qui ont, là encore, agi en décharge de l'athlète, sont des éléments qui existent aujourd'hui. Et si aujourd'hui, à l'AMA, on travaille beaucoup sur cette question des contaminations, c'est bien parce qu'on est conscient que ce sont des phénomènes qui existent. Alors, ils n'existent pas forcément de la même ampleur. Quand vous parlez, par exemple, des promoteurs de croissance qui sont utilisés pour le bétail, c'est un vrai problème dans certains pays d'Amérique latine ou d'Asie. Ça n'est pas du tout le cas en Europe. Donc, on est aussi obligé de prendre en compte
On va ramener de la viande d'Amérique du Sud.
Moi, pour le coup, ça m'amène une question. Pardonnez-moi, mais est-ce qu'il ne faut pas que l'AMA, et je ne sais pas si c'est possible, mais soit clair, en fait, auprès du grand public, parce que vous avez bien compris que
c'est
le message qui est diffusé qui est parfois flou. Et ce n'est pas un reproche que je vous fais. C'est qu'en fait, si un athlète est sanctionné, on dit que c'est un dopé. Exemple Sinner, personne. Enfin, et vous dites non, c'est pas un dopé, c'est un contaminé. Moi, je veux bien. Mais est-ce que l'AMA ne doit pas dire, ok, il est contaminé, lui il est dopé, lui il est contaminé, absolument, lui il est dopé. Vous, est-ce que vous voyez la nuance?
Oui, non, je la comprends bien. Et je comprends que ça permettrait peut-être parfois d'éclaircir les débats. Néanmoins, je pense, alors deux éléments, l'AMA n'a pas toujours pour vocation de communiquer, surtout dans des cas dans lesquels nous ne sommes pas impliqués, nous ne sommes pas partis. Donc là, il y a un aspect juridique, il faut quand même le prendre en compte. Et il a été évoqué un certain nombre de cas où l'AMA n'est pas partie, donc ça n'est pas notre rôle de communiquer sur des dossiers sur lesquels nous ne sommes pas forcément impliqués.
Mais vous êtes l'Agence mondiale antidopage.
Oui, mais l'Agence mondiale antidopage a un rôle, si vous voulez, réglementaire. Notre rôle est de nous assurer que les règles sont suivies, pas forcément d'intervenir sur tous les cas.
Oui, vous n'êtes pas là pour faire de la pédagogie grand public, c'est ça, c'est pas votre rôle premier.
Pas vraiment, c'est pas le rôle qui nous est donné, c'est pas le rôle qui nous est imparti.
Oui, on est d'accord, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la diffusion, enfin, avec tous les canaux de communication avec dans lesquels on vit, c'est sûr que les interprétations, elles vont vite, l'information, elle va tellement vite que on a besoin de pédagogie, en fait, vous comprenez,
et même surtout sur des questions aussi complexes.
Mais après, même pour l'image du sportif lui-même, en fait, pour l'image.
Je comprends très bien.
Vis-à-vis de, par exemple, Sinner va revenir sur le circuit, il y en a qui lui en veulent la mort, il y en a qui disent.
Roland peut être sifflé.
Ce que je veux dire. Et alors, le cas de Simone Halep, ça a fini sa carrière. On a arrêté sa carrière avant l'heure. Mais donc, vous comprenez qu'il y a un moment, on a besoin de comprendre parce que sinon, effectivement, on dit des choses qui sont fausses et les choses qui sont fausses entraînent des rumeurs et les rumeurs entraînent une forme de sentiment d'injustice et ainsi de suite.
Écoutez, vous avez des responsabilités de différentes organisations impliquées dans ce que j'appellerais le système antidopage. Souvent, les informations sont disponibles. Lorsqu'il y a des cas qui sont au tribunal arbitral du sport, l'AMA est en partie ou pas, le tribunal arbitral du sport communique les décisions qui sont prises. Donc là, il y a quand même un certain nombre d'éléments. Après, il faut prendre le temps de les lire, il faut prendre le temps de comprendre le langage juridique et éventuellement scientifique et médical.
Mais ça, le grand public ne veut pas le faire.
Non, mais ça, je peux comprendre, effectivement. Maintenant, il y a quand même un élément que j'aimerais apporter à votre attention, qui est un élément de prudence de notre côté, quand vous dites, il faut dire c'est un athlète contaminé ou un athlète dopé. On a quand même des cas d'athlètes qui ont été pris pour des soi-disant dossiers de contamination qui se sont révélés positifs plus tard. Donc prendre une position de la part de l'AMA, d'un jugement, de dire non, ça c'est un athlète contaminé ou un athlète dopé, ne serait pas forcément une position qui serait tenable dans le temps. On a eu des cas, comme je vous l'ai dit, et c'est tout à fait objectif, d'athlètes qui ont été pris et pour lesquels on a amené le dossier devant le tribunal arbitral du sport, où au final la contamination a été retenue, bon gré, mal gré, à notre avis, et au final l'athlète a été pris pour dopage plus tard, et j'ai plusieurs exemples qui me viennent à l'esprit. Donc effectivement, il faut que nous on soit extrêmement prudents aussi sur les analyses qui sont faites.
Alors vous savez quoi, c'est passionnant, on va continuer évidemment la discussion avec Olivier Rabin de l'AMA, avec le professeur Alvarez qui s'occupe de certains sportifs et qui tente de prouver leur contamination, ce qui n'est pas toujours le cas parce que parfois, évidemment, vous l'avez rappelé, ce sont des sportifs dopés, donc vous vous occupez de ces cas-là. Bref, on continue d'en parler avec les grandes gueules du sport, Christophe Sessieux, Jérôme Pinault et Sarah Pitkowski. À tout de suite sur RMC.